France Inter, le 7-9.
Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le ministre de l'Éducation nationale.
Bonjour à vous Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. Avec la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées, des millions de parents vont se retrouver ce lundi dans une situation totalement inédite. Beaucoup de questions à vous poser ce matin sur la continuité pédagogique, sur les examens, sur les modes de garde. Mais d'abord, Jean-Michel Blanquer, hier, à la même heure, chez nos collègues de France Info, vous disiez « la fermeture totale de toutes les écoles n'a jamais été envisagée ». Que s'est-il passé pour que vous changiez d'avis quelques heures plus tard ?
Il y a eu une réunion de scientifiques hier, peu de temps d'ailleurs après ce propos que j'ai tenu hier, qui est autour du président de la République, et ils ont estimé qu'il fallait passer à une nouvelle étape, et que cette étape supposait qu'on ferme les écoles, les collèges et les lycées, les universités aussi d'ailleurs, parce que c'était une façon de mettre fin à la situation qu'ils commençaient à constater, autrement dit une accélération de l'épidémie. Savions bien que nous allions étendre très fortement les territoires, ça je n'ai pas arrêté de le dire. En revanche, nous étions sur une doctrine qui avait été élaborée bien avant l'épidémie, par les scientifiques aussi, qui consistait à cibler les territoires les plus atteints. Mais comme il y a une accélération assez soudaine de l'épidémie, il y a l'idée là de faire un barrage le plus strict possible avec cette mesure.
Mais du coup, est-ce que c'est pas trop tard ? Cette décision n'aurait-elle pas dû être prise il y a plusieurs jours maintenant pour être pleinement efficace ? Est-ce que vous avez sous-estimé la gravité du virus ?
À chaque fois, nous nous mettons derrière le point de vue des scientifiques, hein, et donc derrière, d'abord derrière le ministère de la Santé, bien entendu, qui lui-même repose sur les experts sanitaires. Non, vous le savez, l'objectif n'est pas d'empêcher l'épidémie. On sait qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le fait qu'un virus naturel se répand. Par contre, ce qui dépend en partie de nous, c'est d'être capable de le freiner. Non pas de l'arrêter, mais de le freiner. Et cette stratégie, elle supposait de cibler les territoires les plus atteints. Maintenant, elle suppose de cibler la France entière.
Mais justement, est-ce qu'on est sûr que l'idée de fermer toutes les écoles, tous les établissements scolaires, ça va permettre de freiner l'épidémie ? Est-ce que les scientifiques sont à peu près sûrs de ça ?
Oui, parce
est-ce que ce
on
sera
le
efficace
bien.
Parce qu'on dit que les enfants sont porteurs sains, mais qui sont pas malades.
Oui, les enfants, c'est la seule bonne nouvelle depuis le début de tout cela. C'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en effet, les enfants ne sont pas atteints gravement par cette maladie. Donc ça, c'est évidemment ce qui donne de la sérénité s'agissant des enfants et des adolescents. Simplement, on a vu lorsqu'on a fait les fermetures massives dans l'Oise ou dans le Haut-Rhin ou en Bretagne, que en effet, ça avait un impact non pas pour empêcher l'épidémie, encore une fois, mais pour la freiner. Donc l'idée cette fois-ci, c'est de le faire à l'échelle nationale. Il faut bien voir que le virus va passer par un très grand nombre de personnes, mais il est bon qu'il ne passe pas par tout le monde en même temps, parce que quand ça arrive, après, il y a une difficulté pour soigner, tout simplement. C'est toute notre stratégie depuis le début. Donc ça passe par des paliers, et nous venons d'entrer dans un nouveau palier.
Une telle fermeture totale de tous les établissements scolaires, est-ce que ça s'est déjà vu dans l'histoire de France ?
Non, le seul exemple qui me vient à l'esprit, c'est 1939. Et c'est une coïncidence d'une certaine façon, parce qu'en 1939, ça a occasionné justement la création du CNED, qui est aujourd'hui une institution très précieuse.
C'est-à-dire l'enseignement par correspondance.
L'enseignement, le Centre national d'enseignement à distance, qui désormais est très numérique et qui, par son savoir-faire, nous permet d'affronter cette crise. Aujourd'hui.
Alors justement, on va parler du travail des enfants puisqu'ils ne sont pas en vacances, vous l'avez dit très clairement hier soir. Mais d'abord, la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pouvez-vous nous donner des indications sur la durée de cette fermeture ? Est-ce qu'on parle de jours, de semaines ou de mois ?
Alors on parle forcément de semaines et pas de jours, qui peuvent devenir des mois bien sûr, mais l'expression jusqu'à nouvel ordre, elle est pratiquement au début de chacune de nos phrases, vous le savez, parce que par définition on doit avoir un peu d'humilité par rapport à tout cela. Simplement, ce qui est assez certain, c'est qu'on va aller au moins jusqu'aux vacances de printemps, qui commencent au début du mois d'avril et puis qui ensuite fonctionnent par zone.
Donc minimum 3 semaines.
C'est le mois de mars qui va évidemment être touché. Après, on va évidemment voir en fonction. De toute façon, je ferai des messages réguliers à destination des parents d'élèves et des professeurs, comme j'ai commencé à le faire sur le site du ministère depuis le début de la crise. Donc tous les 2 ou 3 jours, je parle à la communauté éducative pour dire où nous en sommes et où nous allons. Simplement, ce que je tiens vraiment à dire, c'est que ça ne signifie pas que tout le monde s'arrête de travailler. C'est pas des vacances étendues, au contraire.
Vous allez nous expliquer ce qu'il va falloir faire avec les enfants pendant cette durée, mais donc, pour qu'on se prépare, c'est un minimum de 3 semaines. Hein, on est bien d'accord.
Il faut s'attendre à cela, mais nous le préciserons en fonction de l'évolution de la maladie.
Le bac, les examens de fin d'année, sont-ils maintenus ou reportés ?
Bon, à ce stade, nous travaillons sur tous les scénarios, mais le principal scénario, c'est quand même de le maintenir, parce que nous espérons bien qu'en juin, l'épidémie sera plutôt derrière nous que devant nous.
Même question pour les concours, pour les grandes écoles, sont-elles reportées au mois de septembre ?
Non, tout ce qui est concours et examen, nous l'examinons au cas par cas. C'est pas tout à fait le même sujet que celui des enfants et des adolescents à l'école. Il s'agit en général de jeunes personnes, mais qui ne sont plus des enfants ou des adolescents. Et donc l'idée, c'est que c'est tellement important un concours, et si on l'organise d'une manière qui permette de mettre tout le monde à distance, on respecte les règles d'hygiène, on doit pouvoir dans un grand nombre de cas les organiser. Et en tout cas, moi j'ai en tête tout le travail accompli par les uns les autres pour préparer les concours, et je ne veux pas, je veux éviter au maximum gâcher ce travail accompli par les uns et les autres.
Donc les écoles ferment, mais les enfants ne sont pas en vacances pour autant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que vous dites ce matin aux parents? Que doit-on faire avec nos enfants à partir de lundi?
Alors, nous organisons une continuité pédagogique qui implique toute la communauté éducative, c'est-à-dire les professeurs, bien entendu, l'ensemble des adultes qui sont autour des élèves et les élèves eux-mêmes, selon une modalité qui est à distance. La modalité à distance, elle a une colonne vertébrale, je dirais, qui est ma classe à la maison, c'est-à-dire ce dispositif pour lequel chaque parent d'élève va recevoir une adresse Internet, une adresse URL, comme on dit, qui lui permet de se connecter à la classe virtuelle.
Et donc là, dans les prochaines heures, on va recevoir tous un mail,
oui,
tous les parents,
oui,
on se connecte à ça, et là, on a les indications.
Exactement, et là, on a un mode d'emploi. Il y a aussi un démonstrateur sur le site du ministère pour ceux qui veulent, mais en tout cas, chacun va recevoir un message personnalisé. Beaucoup recevront un coup de téléphone aussi au cours des prochains jours, puisque l'objectif est de s'assurer de ce qui se passe pour chaque élève. Je ne veux qu'aucun élève reste au bord du chemin dans cette occasion, qu'aucun retard ne se réalise. Il peut y avoir des progressions pédagogiques, elles ont été conçues justement avec le CNED. Et puis, nos professeurs, c'est encore plus vrai dans le second degré que dans le premier degré, mais c'est vrai dans les deux cas, nos professeurs sont habitués à certaines de ces modalités, notamment, je pense aux environnements numériques de travail qui sont assez généralisés maintenant et qui permettent déjà aux professeurs, en plus de ma classe à la maison, de pouvoir envoyer des documents, de pouvoir être en contact direct avec des élèves ou des groupes d'élèves. Et c'est évidemment cette combinaison du national et du local, hein, c'est-à-dire ma classe à la maison qui est le dispositif national, plus la communication directe des professeurs via les environnements numériques de travail, qui va permettre d'avoir ce contact au quotidien avec les professeurs et des progressions pédagogiques garanties.
Donc les professeurs ne sont pas non plus en vacances. Est-ce que vous dites aux 800 000 enseignants de venir dans les établissements lundi ou ils restent chez eux ?
Là, c'est le chef d'établissement, bien entendu, donnera. Aujourd'hui, d'abord, nous avons cette journée de vendredi où chacun vient dans l'établissement et c'est l'occasion d'avoir les consignes de la part du chef d'établissement. Dans un instant, j'aurai de nouveau les recteurs en visioconférence qui sont préparés à cette éventualité. Hein. Nous avons évidemment beaucoup travaillé sur cette crise, et y compris si elle devait prendre une échelle grande. Donc, on a aussi les retours d'expérience déjà des académies d'Amiens, de Bretagne, d'Alsace, qui nous permettent de travailler sur les bonnes façons de faire.
Donc les enseignants vont recevoir les instructions
dès aujourd'hui, les documents sont prêts, les instructions sont prêtes. Via les chefs d'établissement et les directeurs d'école, chacun aura l'information nécessaire pour pouvoir travailler dès lundi selon cette nouvelle modalité.
Combien d'heures par jour doivent travailler les enfants à la maison ?
Alors, c'est une très bonne question, et la réponse varie selon l'âge de l'enfant, évidemment. Vous savez que je suis assez sensible au fait qu'il n'y ait pas d'addiction aux écrans, donc le but n'est pas d'être devant un écran 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Là aussi, il y aura des guides, il y aura des conseils qui sont donnés. Il y a aussi parfois des choses qui seront données sous forme de papier. Hein. À l'école primaire, c'est aussi de cette façon-là que ça va se passer de temps en temps. Et puis, il y aura des consignes pour faire des choses à certains moments devant l'écran, à d'autres moments en autonomie.
Et vous allez mettre des tutoriels, les parents qui ne savent pas comment faire vraiment travailler les enfants,
Oui, c'est prêt, bien sûr. Il y a des recommandations pour les parents. Ça, c'est l'occasion d'une nouvelle modalité de travail. Il y a toujours dans un événement négatif, il y a toujours du positif. C'est-à-dire que si nous sommes à la fois solidaires et mobilisés, nous pouvons créer de nouvelles modalités de travail, nouvelles convergences parents-professeurs en particulier autour de l'enfant, qui peut en réalité se passer très bien. Et c'est évidemment ce que nous allons accompagner.
Alors ça, c'est positif sur le papier et dans votre voix ce matin. Après, à l'épreuve des faits et de la réalité, ça devient plus compliqué. Évidemment, les questions des modes de garde des enfants, tous les parents se disent depuis hier soir comment on va faire. Un service de garde sera mis en place région par région, a dit le président de la République hier. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, il y a deux réalités derrière ça. La première, c'est que nous, Éducation nationale, organiser un service minimum pour les personnels indispensables. C'est particulièrement vrai des personnels soignants. C'est évidemment quelque chose qui va se mettre en place pas à pas, mais l'objectif est que un infirmier ou une infirmière, un médecin, tous les personnels soignants puissent obtenir tout simplement la possibilité d'avoir classe pour son enfant près de l'hôpital. Nous avons commencé à préparer cela pour l'Académie de Montpellier et nous allons le développer dans les autres académies.
Ça, c'est pour les personnels soignants, mais pour l'écrasante majorité des Français,
pour certaines institutions vitales pour le pays.
Comment une famille défavorisée qui ne peut pas faire du télétravail, qui n'a pas le moyen de payer une nounou ou une baby-sitter, comment elle fait ?
Alors, bien sûr, ça vient s'articuler avec les autres dispositions qui sont prises sous l'impulsion du président de la République sur le plan économique et social pour permettre à des employés de rester chez eux tout en restant payés. Vous le savez, c'est des modalités qui ont déjà été définies dans les débuts de la crise. Et puis, bien entendu, cela signifie qu'il n'y a pas de perte financière pour ceux qui restent à la maison. Cela s'accompagnera probablement aussi de solidarité entre amis, entre voisins. C'est aussi résilience de notre société qui va se voir dans un moment comme celui-là.
Je sais bien, mais la solidarité, par exemple, en général, ce sont les grands-parents qui gardaient les enfants, qui dépannaient les parents. Là, vous dites clairement aux Français, il ne faut pas que les grands-parents, le grand-père, la grand-mère, ne gardent les enfants, même s'ils sont en bonne santé.
Alors, je pense qu'il faut être très pragmatique et surtout s'appuyer sur ce que peuvent dire les autorités de santé. On peut être grand-père à un âge très jeune, c'est d'ailleurs mon
c'est
cas. Et donc, on ne doit pas avoir de doctrine toute faite sur ces questions.
Donc vous pouvez garder vos petits-enfants.
Il faut évidemment dire que c'est important aujourd'hui que nous ayons à la fois du pragmatisme et une vision proportionnée de ce qui se passe au cas par cas.
Jean-Michel Blanquer, est-ce qu'on peut emmener ses enfants au square ou dans les jardins ?
Écoutez, les enfants aujourd'hui, plus ils sont à la maison, mieux c'est, parce que c'est vrai que ils sont vecteurs de virus. Encore une fois, il faut du pragmatisme. L'important, c'est que, en effet, entre enfants et personnes âgées, le contact physique ne soit pas trop nombreux. C'est ce que nous disent les spécialistes de la santé. Donc c'est cela qu'il faut éviter, mais le faire encore avec du bon sens.
Merci pour ces réponses concrètes, parce que c'était évidemment l'enjeu de ce matin. Juste dernière question, il l'a pas dit hier. On est au stade 3 ou on n'est pas au stade 3 ?
Écoutez, du point de vue de l'éducation nationale, on est au stade 3, puisque c'est clairement un nouveau paradigme, on a changé de paradigme, et ce paradigme a lui-même d'ailleurs été redéfini sous l'impulsion des scientifiques, et donc maintenant on est dans ce paradigme où tout est fermé, donc à mes yeux c'est le stade 3 pour l'éducation nationale.
Merci à vous Jean-Michel Blanquer, et belle journée à vous.
Merci à vous. À tout à l'heure Léa, merci Monsieur le Ministre, le journal à suivre.